il en a créé une, puis on a un peu fait tout notre place.
Ouais, fait que, il n'y a pas d'écran.
Bien effectué mon rôle, il faudrait quand même que j'ai quelque chose, me permettre de savoir quelle heure il est.
On se découvre la drame.
Bonjour. Bonjour Léonie, de la Porte, enchantée.
Oui.
Bonjour Léonie.
Bonjour Madame Claire.
Ah. Testing.
Ok, super. Donc on devrait peut-être commencer les cours.
Oui. Ok.
On est super content de vous avoir.
Très heureux d'être ici.
Oui.
Alors, si on fait la réunion des parents, j'explique aux parents ce qui se passe dans la tête d'un paquet de l'armement.
Oui, ça aussi.
Ça aussi, c'est. Stéphane, il y a bien au fils.
Ma fille qui appelait jouer au hockey, elle discutait avec des défenses, elle discutait avec le gardien qui dit ça m'irait. Ça n'a pas duré longtemps.
Oui, c'est ça. Elle était contente.
Ils discutaient ensemble. Elle a juste déroulé ailleurs.
Si on lit ça, ça endort tout le monde.
Ça endort tout le monde.
Après, il faut que je réveille. Par une blague.
Chez Bombardier Transport.
Il y a depuis 12 ans qu'une biographie.
Matériel ferroviaire.
La même version, donc je ne sais pas
plus
longtemps. Ah, c'est vous qui gardez le temps ou moi? Parce qu'on m'a donné aussi le.
Oui, c'est quand vous voulez, je me le
fasse. Ah non, c'est vous.
Parfait. Vous avez 20 minutes.
Ça s'implique encore plus qu'on rôle.
Alors, qu'est-ce que je vous ai montré? 10, 5, 1?
Alors,
il y en a qui pensent qu'on va déborder.
Est-ce que vous voulez que je lance ou est-ce que vous voulez que je tout de suite à la salle?
Ah, ça c'est gentil de l'eau, rien débordera.
Oui, d'accord. Pour, des fois, ça prend, des fois, ça prend une question de, du président pour que les gens se réveillent un peu.
Que les gens
qui mettent les yeux.
Depuis le début, là.
Oui, donc vous avez déjà.
C'est ça,
3 minutes.
C'est 3 minutes que je parle.
Non, à partir du moment où je commence.
C'est pour ça que je me donne 20 minutes.
Peut-être que j'ai besoin de 40 minutes.
On verra bien.
Si vous les gardez.
Mais ça, ça fait 3 ans et demi. Ils ont dû m'achaler au moins à 10 reprises pour le temps.
Vous
serez à votre disposition.
Vous avez 20 minutes, c'est correct.
Ah, Max. Surtout que moi, mes collègues vont avoir tout dit avant moi. Alors, je vais chanter du rap à
Billy. Le rap à Billy.
Vous me faites
je veux dire que je ne suis pas idologue de ce que je veux. J'aime un peu. Vous êtes tous les uns.
Et donc,
avec tes doigts.
Je pensais prendre un risque en acceptant ce poste
sans nous chercher.
Mais en fait, je me rends compte que je suis déjà avec des étudiants qui se tendent à la fin de l'année prochaine. Je vais pouvoir animer un séminaire. Je connais absolument rien au postcard. Mais ma collègue est absolument convaincue qu'il y a des questions philosophiques profondes qui se tendent à toutes les grandes décisions de régime de fiscalité. On a déjeuné un jour qu'elle m'avait convaincu au bout de la fin du hors-d'œuvre. trouve que
le quatrième à parler, les 80-85 heures semaine,
il fait droit. J'ai plus de gens qui parlent ici qu'au département. Parce que tout le monde a effectivement de philosophie sociale, de philosophie politique, qui est quelque part à la base de leur questionnement. Que ce soit sur les contrats, que ce soit sur la responsabilité civile.
Le département qui est fait 80-85
heures. Je suis membre associé également au département de
l'Union.
Là, vous complémentez.
En plus, vous n'avez pas capable de le voir, comment c'est pas.
C'est pas un
je trouve que j'ai augmenté le nombre d'interlocuteurs
pour
criminels, pour constitutionnels.
Oui, les médecins.
Dans le domaine du droit où il n'y a pas.
Ça sert.
Les questions normatives profondes.
Les médecins, ça travaille. Tout le monde travaille le même. Moi, au bout de 3 semaines, pour faire des journées de 4 jours, des semaines de 4 jours. Puis la 4e semaine, c'est toute une semaine de congé. Plus les 2 semaines de congé, 2 semaines de sans congé.
Pour décrocher, parce que c'est vraiment.
Ouais, mais c'est pas
ça.
Moi, c'est les seuls qui travaillent.
Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Weinstock, je suis professeur ici à la faculté de droit de l'Université McGill et je vais présider aujourd'hui cette séance de la conférence francophone annuelle de la revue de droit de McGill. Cette année, la revue a décidé de s'intéresser à promouvoir une réflexion critique sur la place qu'on ou que devraient avoir les juristes lors de grands débats publics, comme il ne manque pas d'y en avoir dans une société comme la nôtre, à une époque comme la nôtre. Je serai bref et je vais vous présenter mon rôle et tout simplement de vous présenter nos conférenciers aujourd'hui. Nous avons une brochette de conférenciers, je crois, extrêmement impressionnante. Je les présenterai non pas en rafale, mais avant qu'ils ne donnent leur présentation. Donc, je vais tout simplement vous indiquer un peu la manière dont nous allons procéder. Chaque conférencier disposera de 20 minutes, bien minutées, pour nous donner son propos. Suivra une période de discussion avec la salle qui durera à peu près 15 à 20 minutes et vous êtes ensuite tous conviés à une réception qui aura lieu dans le Common Room dont le nom francophone officiel est Salle commune.
La salle commune.
La salle commune. Voilà. Alors sans plus tarder, je voudrais vous présenter, en fait, tous les conférenciers peuvent se passer de présentation, mais je n'aurais vraiment plus aucun rôle si je ne les présentais pas brièvement. Le premier conférencier à ma gauche sera Stéphane Dion. Alors, Stéphane Dion, je l'ai connu comme collègue à l'Université de Montréal il y a de ça quelques années, alors que j'étais au département de philosophie de l'Université de Montréal et lui au département de sciences politiques. Depuis, il a quand même fait d'autres choses, notamment... ministre des Affaires gouvernementales de 1996 à 2003, ministre de l'Environnement 2004-2005, député dans la circonscription de Saint-Laurent depuis 1996 sans aucune interruption, et actuellement le porte-parole libéral pour les affaires intergouvernementales, le Conseil privé de la Reine pour le Canada, le patrimoine canadien et les langues officielles. Donc j'invite Stéphane Dion à prendre la parole pendant 20 minutes.
Affaires intergouvernementales avec le ministère qui est à peu près qui, la Fédération du Canada, le ministère de l'Environnement, où on ait pu avancer une initiative, une loi, contre l'avis juridique qu'on reçoit. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Je peux donner un exemple, ministre de l'Environnement, au moment donné, je reçois un avis scientifique, disant que les ours polaires ont besoin d'une meilleure protection juridique. Mais les avis juridiques, les avis, vous ne pouvez pas faire ça, il faut consulter les autochtones et le gouvernement du Nunavut. Je dis, je n'ai fait que ça. Je les ai déjà consultés. J'estime qu'ils n'ont pas une loi de veto. C'est une responsabilité comme les environnements pour protéger les ours polaires. Eh bien, je n'ai pas pu. Parce que les avis juridiques disaient, retournez les voir. Je vais retourner les voir. Et après, on a perdu les élections. Et les ours polaires, je ne peux plus m'en occuper plus que ça. Mais c'est pour vous dire à quel point un avis juridique peut être plus puissant qu'un avis scientifique. La question des. La question que je me pose alors maintenant tout de suite, c'est pourquoi est-ce que c'est si important? D'abord, le premier élément, c'est que le gouvernement auquel je participais trouvait ça très important. Je soupçonne que c'est moins important pour le gouvernement actuel. Car le gouvernement actuel trouve bien parfois de brasser le monde juridique pour plaire à sa base. On le voit très bien en loi criminelle, où on essaie d'empêcher les juges de juger en multipliant de façon exagérée, à mon avis, les sentences minimales. Mais on le voit aussi dans le droit constitutionnel. Il est très probable que le gouvernement entre les mains des avis juridiques lui disant que son initiative au Sénat ne passera pas les thèses des tribunaux, car on ne peut pas prendre le Sénat élu, changer de caractère du Sénat sans avoir l'accord des provinces selon 9 juristes sur 10. Il y a encore là, peut-être 99 juristes sur 100. Mais le gouvernement va de l'avant, l'air à sa base, en disant écoutez, même si le tribunal en empêche, et moi je vais essayer. Donc l'approche est différente avec le gouvernement actuel, mais je crois que quand même là, on peut dire que les avis juridiques sont très importants. Donc, pourquoi c'est le cas? Eh bien, je vais donner quelques explications. Je crois que la première explication est que la doctrine du droit est mieux établie que la doctrine, les autres doctrines, celle de sciences politiques ou celle de sciences économiques. Que bien sûr, les juristes ont tendance à se contredire. Quand il y a deux avocats sur les causes, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Il arrive que les cours intérieurs soient contredits par la Cour suprême, les Cour suprême soient utilisées. Mais en général, les juristes sont plus souvent d'accord entre eux que les économistes ou que les politologues quand on leur pose une question de loi. C'est-à-dire qu'ils sont leur demande de prédire si une initiative gouvernementale, une loi, passera, le projet de loi peut passer le test des tribunaux, vous avez un avis de mieux. Si vous regardez le débat actuellement sur la soi-disant charte de Mme Marois et M. Grinville, vous avez un avis de mieux. Vous avez des juristes dissidents, mais justement, ils sont dissidents. Il y a un avis de bilan qui nous a été prédit que ça ne passera pas l'avance, cette initiative, devant les tribunaux. Et c'est presque toujours le cas. Alors ça aide. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si c'était une blague une plainte de Churchill, qui disait, quand je consulte 4 économistes, j'ai 5 opinions. Parce que l'un des 4 est Lord Menarchis. Eh bien, si vous consultez 4 juristes, généralement, vous aurez une conclusion, peut-être 3, de dire 2 conclusions, 3 d'un côté et 1 de l'autre. Je me trompe peut-être, mais c'est le sentiment que c'est l'expérience que j'ai. Et bien sûr, chacun de ces juristes arrivera à la conclusion par son propre chemin, il coquette plus de juristes. Et la conclusion sera assez convergente. Et ça aide à avoir une influence par rapport à la capacité des économistes d'avoir une seule voix pour nous dire si on s'en va en récession ou si on s'en va en reprise. Et leur capacité de prédire la récession et la reprise est moins que la capacité des juristes de prédire une décision d'un tribunal. Et ça, même pas la capacité des politologues de prédire qui va gagner les prochaines élections. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les juristes ont colonisé le monde politique. Car vous allez en politique, vous êtes entouré de juristes. Et la raison principale, je crois, est que le législateur, son premier travail, c'est de travailler sur des textes de loi. Le juriste, son premier travail, c'est de travailler sur des textes de loi. Donc, il y a vraiment une convergence entre les deux activités. Quand je vais dans un bureau d'avocat, j'ai devant moi des gens que je soupçonne convoiter un poste politique. Je n'ai pas ce sentiment quand je vais dans un bureau d'ingénieur. Maître Boulac et Maître Prémont ne nous diront peut-être pas, mais peut-être ont-ils envisagé un jour de faire la politique. La conséquence, c'est que les juristes sont des deux côtés de la barrière. Très souvent des politiciens. Et donc, ça imprègne énormément l'influence que les juristes peuvent avoir. Est-ce une bonne chose que les juristes soient si présents? Il y a des gros avantages. Connaissance déjà des lois, de leur dynamique, du processus aussi une mémoire d'éléphant. Pour faire son droit, pour faire la première année de droit, vous développez votre mémoire de façon assez exceptionnelle, c'est très utile en politique. La précision dans le langage, être capable d'avoir des termes très très clairs quand on s'exprime auprès de la population, ça aide beaucoup. Et le sens de la plaidoirie. En politique, on a besoin de plaider comme dans un tribunal, ça aide beaucoup. Si j'avais des revers, j'attire l'attention sur les jeunes ici qui font des droits. Si j'avais des inquiétudes dans cette force du monde juridique en politique, je dirais que parfois on a l'impression qu'on se laisse viser par la plaidoirie, par la capacité de plaider une chose et son contraire, et que parfois la conviction est un peu perdue. Le talent de la plaidoirie peut faire oublier qu'au bout du compte, il faut quand même qu'on soit sincère. Et j'ai vu cela, comme vous n'avez pas de nom, mais des politiciens juristes qui ont été capables de plaider une chose et son contraire avec la même efficacité, qui en semblaient très heureux. C'est une inquiétude que j'ai. Une deuxième inquiétude, mais ça c'est plus centré sur les juristes qui travaillent au ministère de la Justice fédérale, mon expérience, c'est une extrême prudence, un conservatisme au sens fort, idéologique au sens de la prudence. Les juristes du ministère de la Justice considèrent le gouvernement du Canada comme leur client. Et le client, il faut le protéger contre lui-même pour s'assurer qu'il ne risquera pas de se faire dénouer en aucune façon. Et cette extrême prudence peut mener, si les politiciens sont assez fermes et forts dans leur conviction, à un immobilisme, à le refus de prendre la moindre risque, d'innover, de laisser aller à son imagination pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes qui se posent. C'est ce qu'on a certainement vécu à plusieurs reprises dans le domaine des langues officielles. Je ne développe pas là-dessus. Si vous voulez le meilleur conférencier sur ce problème, vient à inviter le juge Bastarache. Il est au but, dans les deux côtés de la culture, il vous expliquera ce qu'il pense du ministère de la Justice et de ses collègues juristes du ministère de la Justice du Canada, dans le domaine des normes officielles. Si on a une volonté ferme politique et les juristes résistent du ministère de la Justice, mais qu'on maintient et qu'on obtient l'appui du Premier ministre, on peut faire un changement. Alors là, les juristes qui ont tout fait pour résister vont vous donner leur expertise pour réussir ce que vous tentez de faire. Et si leur expertise sera formidable, je conseillerais à tout politicien à ce moment-là de s'appuyer sur l'expertise des juristes une fois qu'on a franchi le seuil de leur immobilisme. Ils sont alors très imaginatifs et très utiles pour s'assurer que ce que l'on fait est dans les cordes du droit. Je vais vous donner l'exemple des règles de sécession. Quand je suis arrivé en politique en 1995, en 1996 et après le référendum de 1995, j'avais l'intime conviction que la procédure de sécession que proposait M. Trudeau n'aurait pas mené à la sécession. Si 30 000 personnes avaient voté plus pour le oui que le non, vous auriez promis l'indépendance du Québec, vous auriez une semaine chaotique qui aurait causé des problèmes partout au Canada, mais surtout à Montréal. Et la raison fondamentale de cela, c'est parce que M. Trudeau n'avait pas le droit d'enlever le Canada aux Québécois qui voulaient le garder. Il ne possédait pas ce droit, prétendait l'avoir, avait pu le foncer et nous aurait tous amenés dans le chaos. Pour pouvoir faire des choses graves, il faut pouvoir s'appuyer sur le droit. Et je passe tout de suite à une critique que je fais du monde juridique. Les juristes connaissent souvent le droit, mais mal l'interface entre le droit et la politique. Et les politologues en parlent même pas. Encore pire. Il y a une interface très forte. Surtout si vous voulez faire des choses graves, assurez-vous que vous avez le droit de le faire. Si vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'arriverez pas à le faire. Ou alors à des coûts inimaginables en démocratie. Attendez, en 95, M. Parizeau disait une chose et son contraire. Il disait, c'est une question politique, c'est pas une question de droit. Mais dès lors qu'on nous posait l'objection, on disait, ils n'ont pas le droit de le faire. Les autochtones n'ont pas le droit de rester au Canada avec leur territoire. C'est contre le droit. Donc le droit, on en liait la pertinence quand ça nous arrangeait, et on l'appelait à la rescousse quand ça nous arrangeait. Un double discours amène le chaos, amène pas le changement. J'avais cette conviction en discutant plus longtemps. Là, je passe tout de suite à ce qui s'est passé avec les juristes du ministère de la Justice. Quand je suis arrivé là avec la fille de M. Chrétien, ils ont fait barrage à toute initiative en disant non, c'est hypothétique, on ne sait pas, etc. On sait, mais c'est hypothétique. C'est tout ça qu'ils disent. Vous avez raison, M. Dion, mais tout ça est hypothétique. Et d'ailleurs, le seul poignet qu'on avait à l'époque pour intervenir dans les tribunaux pour clarifier les règles de droit, au bénéfice de tout le monde, c'était une initiative d'un avocat qui s'appelait Guy Bertrand, qui s'appelait toujours Guy Bertrand, et les juristes du ministère de la Justice ne voulaient pas approcher M. Bertrand, même avec une personnalité. Ils disaient qu'il était un homme imprévisible, un énergumène, etc. donc, l'initiative Bertrand à la Cour supérieure du Québec, il ne fallait pas y aller. La deuxième raison pour laquelle il fallait pas y aller, c'est que très probablement le tribunal allait dire c'est hypothétique, il n'y a pas de référendum qui s'en vient, il n'y a pas besoin de juger sur le fond cette question, qui règle de sécession. Et alors, il était venu l'erreur historique du gouvernement de Bouchard, qui, au lieu de plaider comme tout le monde le prévoyait, c'est hypothétique, a envoyé les avocats du procureur général, Maître Paul Desjeuns, plaider, je cite, la souveraineté relève essentiellement d'une démarche démocratique fondamentale qui trouve sa sanction dans le droit international public. La Cour supérieure n'a pas d'obligation à cet égard. Comment les juristes savent ça? Ils sont devenus furieux. Parce que bien sûr, tout juriste sait qu'il y a une distinction fondamentale entre le droit à la toute détermination externe et le droit à la sécession, qui est réservé pour une situation coloniale, peut-être extrême violence contre les droits humains, et d'autre part, le droit à l'autodétermination, hein, c'est le droit qui est développé dans un État, mais qui ne s'étend pas au droit à la sécession. Maître Desjeuns disait une foncée juridique devant les tribunaux. Alors là, les jurés sont devenus les meilleurs alliés. J'ai pu travailler avec eux de très près tout au long de cette initiative qui visait à clarifier les règles de sécession pour tout le monde. Ils m'ont quand même posé des problèmes par leur manque de compréhension du domaine politique. Il ne s'agissait pas de savoir si le Québec, comme entité, a le droit de faire sécession bilatérale. Il s'agissait de savoir si le gouvernement du Québec a le droit d'enlever le Canada aux Québécois qui veulent le faire. C'était ça qu'il fallait faire. Et j'ai dû me battre constamment pour faire cette distinction entre le Québec comme entité et le gouvernement du Québec comme acteur. Ça, c'est une expertise de sciences politiques qui a fallu. Et je me rappelle, la veille du moment où on a rendu public les questions qui seraient posées à la Cour suprême, au soir, à 11h du soir, je suis encore au téléphone avec Mary Dawson pour m'assurer que les questions poseraient vraiment les questions sous cet angle-là. L'autre chose, c'est que parfois les juristes oublient qu'ils sont des juristes, ils veulent être des citoyens. Et écrire sur la possibilité que le Canada se brise quand on aime le Canada, ils me mettaient toujours des poèmes à la beauté du Canada dans leurs avis qu'on a envoyés à la Cour. J'aurais enlevez-moi tout ça de là. On ne demande pas à la Cour suprême si c'est bien ou mal de se séparer. On lui demande comment on peut faire la séparation si jamais les Québécois la voulaient. C'est dur pour vous qui aimez le Canada, mais c'est ça qu'on demande. Il faut un jugement que même un indépendantiste qui connaît le droit dira en effet, c'est la façon dont ça pourrait se faire. Il ne s'agit pas de demander à la Cour de prendre position sur le fond, c'est de demander à la Cour comment les choses pourraient se faire dans le cadre du droit. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Au bout du compte, les jurés ont été d'une grande aide, ils ont été d'une grande aide aussi pour la rédaction de la loi sur la clarté, qui suit de très près la vie de la Cour, pas le temps de jurer si l'on fait. Ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Je pense que la loi 99 et la charte, la soi-disant charte de Mme Marois, M. Bréville, quelle leçon peut-on tirer de ce chose? La loi 99, c'est la loi que le gouvernement Bouchard a fait voter en réponse à la loi sur la clarté. Tout juriste sait que cette loi, dans le sens, ne peut être constitutionnelle que si elle est interprétée de façon très minimale, voulant dire un droit à l'autodétermination interne, mais que ça ne veut pas dire un droit à la sécession. Quand on lit dans cette loi que le peuple québécois peut décider sur son avenir, il faut sous-entendre en autant que c'est dans le Canada. Quand on lit dans cette loi le peuple québécois a droit à l'autodétermination, il faut lire l'autodétermination interne. Les juristes du ministère de la Justice du Québec l'ont rédigé dans ce sens, pour s'assurer que ça pourrait passer l'avis des cours par une interprétation minimale. Le procureur général du Québec, puisque cette loi est concessive dans sa constitutionnalité, envoie leurs avocats plaider interprétation minimale, autodétermination interne. C'est ce qui me plaît. Mais Mme Marois et ses ministres, en public, dans le débat public, disent on a le droit de décider seul si on veut que le Québec soit un pays indépendant, etc. Donc ils disent une chose dans le débat public au peuple et une autre chose contraire au juge. Je suis allé, moi, inviter à parler devant le Congrès québécois de droit constitutionnel, et j'ai dit pourquoi est-ce que les jurés ne sont pas en train de dénoncer ce délit. C'est un abus de votre discipline. Les politiciens ne doivent pas abuser de votre discipline. Dès l'instant où on dit une chose dans le peuple, une autre chose dans les juristes de toute tendance politique devraient dire que c'est inacceptable. Il n'y en a pas un qui me l'a dit sauf moi qui l'ai présenté. Je ne suis pas juriste. Mais je dis que ce n'est pas acceptable, quelle que soit la façon dont on pense la vie du Québec, qu'on laisse les politiciens dire une chose au peuple, une autre chose au juge, qui est tout à fait concret. Et il me reste quelques minutes pour parler de l'initiative Marois-Nadine et les juristes. C'est un exemple où les juristes ont agi dominant, il y a des habitudes qui sont contraires. Et puis ici, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas tellement les juristes mon problème, comme la façon dont le débat évolue, on a l'impression que si on est contre cette initiative qui consiste à interdire les signes religieux pour les employés du secteur public et parapublic québécois, c'est pour des raisons juridiques abstraites. C'est parce que la charte nous en empêche. Thérèse en étant une nouvelle paire, la charte nous en empêche, la charte nous a été imposée par les Canadiens. On accepte de laisser définir le débat de cette façon. Or, je dirais moi, que les seuls qui parlent de gens en chair et en os et qui existent, ce sont ceux qui s'opposent à ça. C'est à l'Assemblée nationale, le Parti libéral du Québec. Il y a des gens, alors, normalement, en ce moment-ci, qui ont de la difficulté à dormir parce qu'ils craignent de perdre leur emploi. Ces gens-là existent. Et c'est d'eux dont on parle. Pourquoi alors on dit que si on s'oppose à la charte, on se réfugie dans un juridisme abstrait, alors que c'est très concret. Et vous voyez, quand je vous parle de sociologie concrète, on a plein d'études. Il y en a encore une la semaine dernière, de Statistique Québec, du Bureau de la Statistique du Québec, qui montre que les nouveaux arrivants ont plus de difficultés à atteindre le niveau de vie des habitants qui ont vécu longtemps au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Ici, la première initiative pour essayer de compenser à ce problème, c'est que le gouvernement de Québec veut institutionnaliser la discrimination au travail. Quel exemple donne-t-il au secteur privé? Alors même qu'il dit au secteur privé, si vous voulez avoir de la sous-traitance au secteur public, vous devrez faire la même chose. On va institutionnaliser la discrimination au travail et on pense que c'est de cette façon qu'on va corriger notre problème très concret d'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Alors comment ça se fait qu'on a laissé présenter votre expertise, le droit, comme quelque chose d'abstrait. Quand en fait, c'est pour défendre des gens qui existent en chair et en os. Je n'aime pas si le juriste, je parle de tout le monde. Pour moi, c'est concret. Vous avez un ministre, M. Dreyfus, qui est incapable de me regarder dans les yeux et de me dire « je vais mettre du monde à la porte ». Il était capable de le faire. Il s'est fait dire par ses faiseurs d'image, ne prononce jamais le mot congédiement. Quand on le pousse là-dessus, il baisse les yeux, il tourne en rond. C'est vrai que cette idée que les fonctionnaires devraient garder leur signe religieux au vestiaire est assez populaire. Mais la conséquence, sinon on les fout à la porte, ne déporte. Et donc plus le débat sera concret, sociologique, dans la réalité, et plus les gens seront contre. Mais plus on leur dit, parce que ça vient de faire les chartes, les juges, les avocats vont les empêcher de faire, moins ils vous aimeront et moins ils comprendront dans quelle situation on est. Alors, pour conclure, pour ramasser mes idées, m'adresse aux hommes juristes qui sont ici. Je ne suis pas juriste, mais je suis quelqu'un de beaucoup. Donc, les juristes et moi, c'est le plus loin pour discuter aujourd'hui. La vie des juristes est extrêmement influente dans la société, surtout quand on est un gouvernement libéral. Parce que nous ne voulons pas être déjà voués dans le gouvernement. Mais les mêmes gouvernements actuels. La doctrine du droit m'apparaît mieux, c'est-à-dire que d'autres doctrines, ça explique la force des juristes. Mais le poids des juristes en politique aussi, la façon dont ils colonisent la vie politique, c'est une bonne chose, en raison de la rigueur de votre discipline, de l'effort de mémoire que ça représente pour la dominer, de la familiarité avec les lois. Le défaut à surveiller, s'il vous plaît, ne vous laissez pas griser par la capacité de convaincre, au point de perdre vos convictions, mettez toujours vos convictions en premier. Ne laissez pas votre connaissance très, très approfondie des lois tuer le sens de l'initiative, le sens de l'inventivité qui est en vous. Comprenez bien que le droit a un lien étroit avec la politique. Essayez de bien comprendre ce lien. Parce que et les politologues et les juristes comprennent mal le lien d'une discipline à l'autre, à mon avis. Ne laissez pas les politiciens ou les débats publics déformer votre doctrine, votre discipline, la vraie portée du droit, soit en s'appliquant d'ailleurs le droit pour ne pas prendre position. Oh, moi, je ne peux pas prendre position, mais je peux vous dire que les chartes l'empêcheront. Ça, c'est très mauvais comme le débat aussi philosophique, sociologique, que celui que nous avons sur l'initiative de Grindy. Ou soit en plaidant une chose devant le peuple et l'autre devant les juges. Et ces choses qu'on ne devrait jamais accepter. Merci.
Notre deuxième...
Stéphane Boulac. Alors, Stéphane Boulac était un doctorant en droit international de l'Université Cambridge, l'université à laquelle on référait dans l'université où j'ai moi-même fait mon doctorat comme « The Other Place ». Il a été professeur à la faculté de droit de l'Université Dalhousie et est présentement professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal, où il est directeur du programme d'études supérieures de JD en Common Law nord-américaine. Stéphane Boulac.
Récemment, printemps 2012, la crise étudiante, évidemment, les carrés rouges, les carrés verts, et surtout la loi spéciale liberticide quant à la liberté d'expression, notamment, qui, toutefois, ses droits, j'insistais, devaient néanmoins être balancés avec les intérêts de la société dans un système comme le nôtre, fondé sur l'état de droit. Pour les fins d'exercice d'aujourd'hui, j'ai décidé à la fois de reculer un peu plus et d'avancer un peu plus dans les cas d'études que j'utiliserai, ce qui me permettra incidemment de combiner mes deux principaux intérêts de recherche, soit le droit international et le droit public canadien. Alors, ce que je veux faire avec vous, c'est d'examiner le rôle du droit, le rôle des juristes, des intervenants de droit par rapport, dans un premier temps, aux événements qui ont précédé l'invasion des États-Unis en Irak en 2003, notamment le droit de utilisé nous en 2002. Et je souhaite faire des parallèles avec un débat public plus proche de chez nous depuis l'automne dernier au Québec, avec le projet de loi 60. Donc, plan de match, faire le pont entre l'Irak et la soi-disant charte de la laïcité. Je dis soi-disant parce que ça va toujours déranger encore plus le terme charte est associé à un instrument non pas de protection des individus, mais bien une loi répressive des droits fondamentaux. Donc, plan de match, invasion de l'Irak en 2003 et TL 60, au père Foucault, actuellement débattu au Québec. En particulier, l'interdiction quant au port des signes religieux dans la fonction. Un mot préalable, peut-être pour vous dire que malgré les apparences, pourrait penser, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux. Et pas juste au niveau du droit dans les niveaux publics. On peut penser tout d'abord à une analogie assez évidente au niveau du dossier vaccinal. En 2003, aucune preuve concrète de la présence d'armes de destruction massive en territoire irakien. Chez nous, on sait, d'abord, M. Benindil relativise le factuel, comme on le sait. Ici, il n'existe aucune étude faisant état d'un problème quelconque concernant les services publics et les employés du droit des citoyens. Ce projet de loi est fondé sur une perception, sur des malaises, comme on entend souvent. Ceci étant, concentrons-nous sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle du jury. Examinons comment a été et est toujours maltraité le droit ainsi que plusieurs des intervenants juridiques dans ces deux débats publics, Irak et TL 60. La thèse, hypothèse, défendue étant que sur le long terme, le droit et les juristes reconnaissent plus d'aider à structurer la pensée et le discours. C'est égal, ça, ça vaut beaucoup ce que M. Dillon nous invitait à faire. Donc, à structurer le droit et les juristes, la pensée, le discours relativement au débat public. Donc, mon fil conducteur, hein, quand je fais le pont entre l'Irak et le PL60, c'est, dans un sens, la résilience du droit et de leur porte-parole, les juristes, dans les débats. Alors, premièrement, il est clair d'abord de rappeler les éléments de base pertinents de notre étude aux deux débats publics qui nous servent d'illustration. Tout d'abord, l'Irak. Tu viendras de rafraîchir la mémoire, mars 2003, un an après l'intervention en Afghanistan, un an et demi après les événements du 11 septembre, opération libération de l'Irak. Donc, début de la guerre d'agression par cette coalition menée par les États-Unis de George W. Bush. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé avant, dans les débats publics? À l'interne et à l'international, avant l'invasion américaine, quelle a été, le cas échéant, la place du droit international et des juristes de droit public? La réponse courte, cette place, ce rôle, très bien. Un collègue internationaliste de l'Université de Cambridge écrivait ceci, il y a de traduire de façon libérale. Ironiquement, écrivait-il, malgré le caractère clairement illégal de l'intervention en Irak et les efforts titanesques pour discréditer les publicistes à travers le monde non animés, on a sans doute, jugeait-il, on a sans doute jamais dans l'histoire récente de l'humanité discuté autant des relations internationales en termes de droit international. Fin de la citation. Pour mémoire, on se souviendra combien on articulait les enjeux, même les intervenants de l'administration américaine le faisaient. Quant à la justification pour renverser le régime du parti Baath en Irak, fondait ça sur des argumentaires essentiellement juridiques, des débats autour de la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies, portant sur le désarmement de Saddam Hussein et qui, dans l'hypothèse de non-coopération, utilisait le vocabulaire de graves conséquences et non d'expression par tous les moyens et le code pour permettre le retour à la force en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et la question est donc depuis de savoir s'il fallait adopter une nouvelle résolution au Conseil de sécurité. Savoir si 1441 et rien de plus autorisait le recours à la force. En outre, on se souviendra, on a fait fi de la coalition, et de l'avant, on a fait fi de l'autorisation préalable de mesures collectives en vertu de ce chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En droit international public, il y a eu aussi cette controverse. Venant d'interprétation de juristes pourtant habituellement sérieux, qui suggéraient d'étendre l'application du principe de légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, à titre de seule autre exception à la règle qui interdit le recours à la force en droit international. D'aucuns ont prétendu, et ce sans broncher, que l'on devait reconnaître un droit de preemptive. Anticipatory self-defense en international, en français, traduit par l'expression auto-défense préemptive. Des internationalistes comme le professeur Michael Reisman de la réputée Yale Law School suggéraient que les nouvelles réalités du terrorisme international et les besoins liés à la sécurité nationale signifiaient de considérer l'opportunité de réinterpréter l'autodéfense et son utilisation généralement restrictive. En outre, s'agissant des intervenants, on a instrumentalisé, certains diraient, on a brûlé, certains gros noms à l'ONU. Pensons à Colin Powell et son dossier présenté au Conseil de sécurité en février 2003. Ses preuves d'activités illicites étaient fondées, on a su rapidement, sur de faux renseignements d'un informateur irakien, nom Todd Kerfall. Le tout deviendra l'une des plus grandes supercheries de l'histoire de l'enseignement international. Peter Goldsmith, à qui on avait demandé de rendre un avis juridique sur la légalité d'une intervention en Irak, eu égard notamment aux résolutions du Conseil de sécurité. Et en janvier 2003, dans son, ce qui s'est révélé plus tard, son premier mémo, ce mémo était à l'effet qu'une intervention en Irak nécessitait une nouvelle résolution à l'ONU, celles existantes n'étant pas suffisantes. En outre, à cet égard, il est intéressant de souligner que le bureau de M. Goldsmith refusait catégoriquement de lever la confidentialité de ce premier mémo, invoquant le privilège avocat-client. Ce n'est qu'au plus tard, en 2010, lors de l'enquête publique sur l'Irak qui a été tenue en Grande-Bretagne, qu'on a appris le contenu, la substance de ce premier mémo. Ceci étant, quelques mois plus tard, en mars 2003, le procureur général Goldsmith changeait son opinion et rendait un autre avis juridique au gouvernement de Tony Blair, deuxième mémo, à l'effet qu'une intervention armée en Irak était de fait légale en droit international. Ce rapport, des semaines qu'on suit, a fait l'objet d'une étude qui a forcé, quelques mois plus tard, le gouvernement à le rendre public. Avec ceci, bon, je me limite aux éléments juridiques les plus juteux, si vous me permettez l'expression, relativement à l'Irak, et aux débats publics qui ont précédé cette guerre d'agression déclenchée en 2003. Bref, on doit comprendre beaucoup de droits, beaucoup d'interventions, d'intervenants juridiques de l'ONU. Et tout ça, ironiquement, pendant qu'on faisait des pieds et des mains à Washington et ailleurs pour relativiser l'importance du droit dans ces débats et pour discréditer les très nombreux juristes